Alors, ce matin, je vous invite à écouter avec les oreilles du cœur. Vous savez qu'on a deux paires d'oreilles. On a nos pensures qu'on peut voir physiquement, puis on a aussi les oreilles de notre cœur. Et c'est avec ceux-là que l'Esprit va nous parler ce matin. On va regarder ensemble la volonté de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés des êtres libres. Combien de vous êtes contents que vous avez une volonté propre? On n'est pas des robots, Dieu n'arrive pas puis nous avoir arrangé avec une série de pitons puis qui peut pousser à son gré et puis qu'on obéit malgré nous. Non, nous avons une volonté propre et Dieu aussi a une volonté. On sait bien que tout enfant de Dieu, chacun de nous tous, on aime Dieu puis quand on est sincère, on veut vraiment lui obéir, c'est vrai, hein? On désire ardemment faire sa volonté. Et puis, on peut passer, vous savez, des heures à chercher sa volonté. On peut passer des heures dans la prière, dans l'agonie à chercher sa volonté. La prière en soi n'est pas mal. Mais il peut arriver que même à travers de ces moments-là, de grandes prières intenses, on n'a toujours pas trouvé la volonté de Dieu. Parce que vous savez que des fois, on oublie de regarder à sa volonté qui est exprimée dans sa parole. Il nous a laissé le manuel. C'est-tu fâchant des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous sûrement, d'essayer de monter un bricolage. Le temps des fêtes arrive, on a des petits jouets qu'on doit monter avec pour nos enfants. Puis si on ne prend pas le temps de regarder les instructions, on peut travailler longtemps, on finit plus d'assembler les pièces. Puis pourtant, si on aurait pris le temps de regarder dans le manuel, on s'aurait sauvé peut-être une demi-heure, sinon une heure de temps. On essaye, puis bon, ça va pas là, ce morceau-là. Puis on essaie de mettre un morceau rond dans une pièce. Dans un carré, ça va pas. Alors, on a un manuel, Dieu nous a laissé un manuel aussi, qui s'appelle sa parole. Et c'est là qu'il a ça, qui nous exprime sa volonté. C'est comme un testament. Si on veut savoir le testament, si on veut savoir si on est parti, si on fait partie du testament, si on veut savoir, bon, tout ce qui est dans le testament, il faut qu'on prenne le temps de le lire. Alors, la parole de Dieu, c'est le manuel, c'est le testament par où Dieu nous démontre sa volonté. Et si on ne prend pas le temps de regarder ça, mais on va manquer sa volonté, on va manquer de la faire. Aussi sincère soit-on, on va manquer d'accomplir sa volonté. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles ce matin, si vous avez avec vous la Bible, une Bible. Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et on va voir des versets 16 à 18. On va voir que Dieu veut nous parler, veut nous montrer sa volonté. Donc, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 à 18. On va commencer par le verset 18 à matin. On commence à l'envers, puis on va monter finalement vers notre but. Mais commençons au verset 18 qui nous dit, « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Si on regarde ça comme ça, c'est comme vague un peu, ça ne dit pas grand-chose. On trouve toujours pas sa volonté. On sait qu'il veut qu'on découvre sa volonté. On sait qu'il y a une volonté à notre égard, mais ça ne nous dit toujours pas quelle est cette volonté-là. Mais si on regarde au verset 16, qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Alors là, sa volonté est exprimée. On ouvre le manuel, on regarde, puis on voit c'est marqué « Soyez toujours joyeux ». Là, peut-être ce matin, je pile sur des orteils, il y a peut-être des gens qui ont arrivé ici un matin, ils n'ont pas envie d'être joyeux, on est un peu grognon, il y a quelque chose qui n'est pas allé, qui ne va pas bien, on n'a pas passé une bonne semaine, puis bon, un matin, je vais entendre un message, une prêche sur « Soyez toujours joyeux ». Wesh, j'ai pas envie. Mais si vous restez ici, si vous restez avec moi assez longtemps, on va découvrir aussi l'importance d'être joyeux. Pas juste le commandement, mais le savoir-faire aussi. Donc, on va mettre en application les deux. Si on n'avait pas le goût d'être joyeux, on va partir aussi dans la joie du Seigneur. On sait que c'est naturel de se réjouir quand les choses vont bien, dans des moments de grande bénédiction. Je connais pas grand monde qui se promène le visage, ils ont la mine basse, puis je veux dire, ils sont tout défaits quand les choses vont bien. Ils ont rencontré la femme de leur rêve, ils ont eu une promotion au travail, ils ont eu, bon, peu importe la bénédiction, ça va bien, tout est pour le meilleur des mondes, on ne se promène pas avec la mine basse. On est joyeux, puis on le démontre, puis on le manifeste, les gens, des fois, moi je sais bien quand j'ai rencontré mon beau Donald, le monde, il avait même pas besoin de me demander, ben voyons, tu avais l'air joyeux, ça se montrait dans les yeux, ils ont dit, toi, tu nous caches quelque chose, c'est quoi, t'es heureuse. Mais oui, c'est la même chose avec le Seigneur. Il veut qu'on apprenne à manifester cette joie-là. Mais c'est beau, ça, de se réjouir quand ça va bien. Puis oui, il y a des moments de bénédiction. Il y a des moments de grande joie. Puis on a le droit d'exprimer ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les jours qui sont plus sombres? Dans ces moments-là où nous semble, j'ai dit bien, je pèse les mots, hein, il nous semble que Dieu n'est pas avec nous. C'est juste, il nous semble, c'est une illusion, c'est un mensonge de l'ennemi, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous abandonnera jamais, il nous laissera jamais orphelins. Mais ça nous semble qu'on ressent pas sa présence. Ça vous est déjà arrivé des moments comme ça? Même en tant que chrétien, on est tellement nébulé par la situation, par la circonstance qu'on vit, qu'on a l'impression qu'on est seul. On dirait qu'on ne ressent pas la présence de Dieu. Dans des moments où nous semble, je dis bien encore, que Satan est victorieux, on dirait que c'est lui qui a remporté le combat, on dirait que nous, on éprouve la défaite. Je ne sais pas si c'est arrivé juste à moi, mais je sais que c'est arrivé à d'autres. On peut s'identifier à ça, hein? Donc, c'est dans ces grands moments-là, des moments où des fois qu'on peut avoir goûté au rejet. On sait comment ça fait mal, le rejet. Il n'y a personne qui veut vivre le rejet. On veut tous être aimés, on veut tous être appréciés. Mais des fois qu'on a goûté au rejet, même qu'on a fait confiance à quelqu'un qu'on aime beaucoup, et cette personne-là nous a laissé tomber, nous a tourné le dos, il a pris notre amitié puis a joué avec. C'est amusé avec notre cœur, c'est amusé avec nos sentiments, comme on est blessé, comme on est brisé. Et en plus, comme c'était passé, cette personne-là qui nous est chère tourne le dos à Dieu. Pour un temps, peut avoir cette profession de foi. Ça peut être de nos enfants. C'est quelqu'un de proche, des fois, qu'on peut même avoir gagné au Seigneur. Puis, pour une raison quelconque, nous tourne le dos, nous renie complètement, puis tourne le dos à Dieu, puis ça va dans une autre direction. Ou même des fois, quand notre service pour Dieu semble vain, on ne voit pas toujours le fruit de notre labeur. Même en tant que chrétien, notre service pour Dieu, des fois, peut nous sembler vain. On dit, mais ça fait des années, ça fait des mois, Seigneur, que je prie dans une direction, que j'œuvre dans une telle direction. Je pense que les pasteurs, surtout, peuvent s'identifier avec ça. Ça prend du temps, des fois, pour eux de voir la croissance d'un troupeau, pour eux de voir les gens en bonne place, avec la bonne grâce et faisant les choses qu'on se posait de faire. Donc, même notre service pour Dieu, des fois, peut nous sembler vain. On dirait qu'on travaille pour rien, on n'arrive jamais à nos objectifs. Des fois, ça peut être une situation qui est encore même plus alarmante que ça. Un désespoir terrestre, une situation qu'on fait face. On dirait qu'on semble... Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de solution. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, il n'y en a pas ni en haut ni en bas. C'est comme tu es pris dans un piège. Il y a des gens qui vivent jusqu'au désespoir comme ça. Ils n'en voient pas d'espoir. Ils sont découragés à tel point qu'il n'y a pas d'espoir. Ne sommes-nous pas attristés dans ces moments-là, puis même accablés, même comme enfants de Dieu, même si on ne vit pas le tragique des moments des journées sombres, des moments où il y a l'épreuve qui vient. Parce que l'épreuve va venir. Notre foi va être éprouvée. C'est pas parce qu'on est croyant, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est épargné de l'épreuve. La tempête va venir. Mais pourtant, d'accomplir la volonté de Dieu, c'est d'apprendre à se réjouir dans ces moments difficiles. Parce qu'on parle d'accomplir la volonté de Dieu, on parle de découvrir la volonté de Dieu. C'est une chose de la découvrir, c'est une autre chose de la mettre en pratique. Ça ne nous donne rien de voir la volonté de Dieu si on n'est pas pour agir après sur sa volonté. Alors, non seulement il veut nous montrer sa volonté dans sa parole, parce qu'on a déterminé au début que c'est là qu'on trouve sa volonté, elle est écrite dans sa parole, il veut qu'on découvre sa volonté dans le but d'agir sur cette volonté-là, dans le but de la mettre en pratique. Et on voit dans le verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Alors, d'apprendre la volonté de Dieu, d'accomplir sa volonté, se réjouir même dans les moments difficiles. Pourquoi ça? Ça devrait être suffisant pourtant pour nous, juste le fait qu'on est des enfants de Dieu, d'obéir à papa. À savoir que c'est un commandement qu'il a donné. C'est pas une option. Il n'a pas dit, ben là, soyez joyeux de temps en temps. Écoutez, je suis pas fou là quand même, je comprends. Quand ça va pas bien, je vous demande pas d'être joyeux, là. Pleurez, puis soyez triste, puis dites-le à tout le monde, ça va pas, puis on tape du pied. Puis... Non, il a dit, soyez toujours joyeux. On regarde ça, puis on dit, c'est dur. Des paroles dures, ça. J'ai dit qu'on serait dérangeant tout à l'heure. Le Seigneur veut nous déranger, veut nous secouer, veut nous brasser pour qu'on puisse saisir l'importance de ce qu'il nous dit. Il nous dit pas ça pour rire de nous autres. Il nous dit pas ça pour être un maître dur. Il dit là, Soyez toujours joyeux. Avez-vous compris? Non, on ne le prend pas comme ça parce que ça n'a pas de sens. Les commandements de Dieu sont intentionnés pour nous faire du bien. Ils sont là pour notre bien, ils sont là pour notre protection, ils sont là pour nous faire du bien. Puis ils vont le faire si on obéit pleinement. On a combien de parents ici ce matin? On a plusieurs parents. Vous savez comme moi, quelqu'un qu'on élève des enfants, on élève une petite famille, puis on établit des règles. Ça va bien tant que tout le monde coopère, les enfants, ça va bien. Mais à un moment donné, il faut établir un commandement. Il faut absolument exiger quelque chose, sinon il dépasse les bornes, il dépasse les limites. Et puis là, je vais parler d'une de nos filles, elle ne m'aura peut-être pas si elle l'entend, mais elle a grandi, là, c'est du passé. Mais notre dernière, Gisèle, elle avait une petite bicyclette avec les petits trous d'en arrière, là. Puis nous, où est-ce qu'on demeure, c'est la côte est très à pic, hein. Alors je lui disais, Gisèle, commence à descendre, puis tu freines, mets les freins juste au bas de la côte, puis tu regardes des deux côtés de la rue, vois s'il y a une auto qui s'en vient. Alors, je la laisse aller, puis je lui fais confiance. Je la regarde partir, zoom! Elle traverse la rue comme une flèche, elle s'est rendue au bas, puis là, elle regarde des deux côtés. Là, je la laisse revenir à la maison, j'ai eu de la grâce pour elle, de la miséricorde. Je l'avertis, par contre, j'ai dit, écoute, tu as regardé quand tu étais traversée, c'est pas le temps, là. Donc, je négocie encore avec elle, puis là, je lui dis, par contre, fais attention, fais ce que maman l'a dit. Elle fait une journée, ça va bien, c'est le fun, elle regarde, elle freine. J'ai dit, ouais, compris. Le lendemain, encore comme une flèche, rendue de l'autre bord de la rue, puis là, elle regarde. J'ai dit, Gisèle, viens ici. Puis je l'avais avisé avant, j'ai dit, on va devoir, si tu n'écoutes pas, prendre la bicyclette, la mettre au sous-sol. Tu vas réfléchir pour une semaine, tu ne l'auras pas. Ah, elle a tapé du pied. Elle criait, ça n'a pas de bon sens, puis vous m'aimez pas, puis j'ai juste ça pour m'amuser, puis mon petit bicycle. J'ai dû mettre un commandement. Il était sévère pour elle. Mais il a fallu que je prenne le temps de lui expliquer. Un enfant de 3 ans, 4 ans, je prends le temps. Je lui ai expliqué que c'est pour son bien que je veux qu'elle regarde là, des deux côtés de la rue. Je l'aime, puis je veux la garder longtemps. Alors là, en expliquant, OK, maman, fais pas ça pour être méchante. Je t'enlève pas ton petit vélo pour te faire pleurer. Quoi que ça te fait pleurer? Mais ça va t'apporter à réfléchir. On enlève ta bicyclette parce que tu es désobéissante. Tu n'as pas fait ce que maman dit. Tu n'as pas tenu compte du commandement. Et puis, c'est pour ton bien. Elle en rit aujourd'hui, c'est le fun, on en reparle encore. Puis elle dit, une chance, maman, je t'envie encore. Je te dois la vie deux fois. Je l'ai mis au monde, puis je l'ai aidé à ne pas se faire frapper par un auto. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il nous met des commandements dans sa parole. On peut regarder ça et dire, « Ah, j'ai pas le goût de faire ça. Oh non, ça me semble trop dur. Là. Ça me tente vraiment pas. » Mais il a mis ça pour notre bien. Ils sont intentionnés, ces commandements, pour notre bien. Et ils vont nous faire du bien. Mais il faut qu'on demeure dans cette place de joie. On sait que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et ça inclut la tristesse aussi. Ça inclut la triste. On sait très bien qui est l'auteur du péché, qui a introduit le péché dans le monde. On sait que Satan, dans le jardin, comment est-ce qu'il est arrivé? Par la déception, par le mensonge. C'est Dieu rêve et la faire tomber dans le mal. Mais avec le péché, c'est sûr que s'ensuit la tristesse. S'ensuit la tristesse. Puis l'ennemi, il n'a pas changé, hein? Il est toujours le même. Il est toujours le même vieux menteur, avec ses mêmes vieilles ruses, ses mêmes vieux trucs. On dirait qu'il apprend pas. Il me semble qu'après le temps, il aurait dû sortir d'autres choses de nouveau. Mais non, il est dans le même ruse, le même mentor. Puis il va venir vers vous avec les mêmes mensonges. Il va dire, mais oui, mais juste aujourd'hui, quand les circonstances, c'est bon. Mais si on laisse la tristesse, si on laisse le découragement venir sur nous, si on se laisse accabler, si on se laisse vraiment... On permet à ces choses de venir sur nous, mais ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse. On se remet sous une partie de la malédiction. Puis pourtant, Jésus a payé le prix par son sang. Il nous a rachetés de la malédiction. Mais on peut volontairement se remettre là, par notre attitude, par nos gestes. Alors, les conséquences de ça, c'est qu'on va souffrir. On va se prendre la mine basse, puis bon, la larme à l'œil, puis ça va pas, puis on va le dire à tout le monde. Mais si on obéit à Dieu, si on se réjouit même quand on n'a pas envie, ça s'appelle ça un sacrifice de louange. Notre tête ne veut pas. On n'a pas le goût, là, parce que nos circonstances, ça nous contrarie. Ça ne va pas. Mais on offre à Dieu un sacrifice de louange, même quand on n'a pas envie. Qu'est-ce qui va arriver? On est prêt à résister à Satan. On est prêt à résister à l'ennemi. Alors, il va faire sa valise, il va s'enfuir, puis il va avoir mis dans la valise la tristesse, puis il va partir avec. Puis nous, on va rester avec la joie. Voyez-vous, c'est l'importance des commandements de Dieu. Si on veut garder notre tristesse, si on veut garder la mine basse, si on dit, mais oui, mais c'est mes circonstances qui me rendent comme ça, mais on va rester accablé. Mais si on ne permet pas à l'ennemi, puis nous, on fait le choix, non, j'accepte pas ça. Je vais me réjouir, comme la parole de Dieu me dit. Mais bye-bye, la tristesse, puis la joie va prendre place. Néhémie, au chapitre 8, le verset 10, à la fin, nous dit que la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur sera votre force. Donc, c'est pas notre joie, nous. Il n'a jamais dit qu'on doit manifester notre joie, mais on manifeste sa joie qui est en nous. C'est ça qui nous donne la joie. Même si mes circonstances ne me permettent pas de me réjouir, si je me réjouis dans sa joie, puis lui n'en manque pas de joie, Dieu est bon. Dieu est tellement grand, il ne manque pas de joie. Savez-vous que Dieu est toujours heureux? Les circonstances, il les a vaincues. Satan, il l'a vaincu, puis il le met à sa place. C'est pour ça qu'il est toujours joyeux maintenant. Il a payé le prix pour nous, puis il veut qu'on rentre dans sa joie, pour être capable de nous bénir, pour qu'on soit fort. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors, à mesure qu'on se réjouit, à mesure qu'on loue le Seigneur, même quand le cœur est lourd, le cœur fait mal, Dieu va effectuer un changement. Il va remplacer la tristesse par la joie. Il s'agit qu'on fasse un pas d'obéissance. On dit, je mets de côté la tristesse dans le nom de Jésus. Je me réjouis dans l'Éternel qui est ma force. Et il va effectuer un changement. Je l'ai vécu même cette semaine. Au début de la semaine, j'étais un peu, il y avait des circonstances, bon, il y avait des choses qui étaient un peu lourdes sur mon cœur et vous savez quand même qu'on est appelé à apporter la parole, on reste des humains, on est en chair et en os comme donc. Il y a des choses, des fois les circonstances, des fois différentes choses, qui ça vient vers nous aussi. Puis, j'avais pas forcément le goût lundi, je me disais, oi, oi, faut que je prêche dimanche sur la joie, Seigneur, regarde-moi l'allure. J'ai pas le goût là de me réjouir à cause de telle et telle affaire. Mais j'ai dit non, moi, faut que je mette le message. Faut que je le vive, ce message-là. Faut que je le mette en pratique. C'est trop facile de prêcher aux autres et pas le vivre soi-même. Alors, j'ai lâché les circonstances, j'ai mis tout sur le côté, puis j'arrivais dans le salon. Ça faisait pas 10 minutes, je sautais. Je sautais de joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait remplacé la tristesse, la tremblement par sa joie à lui. J'avais la force de l'Éternel qui était en moi, qui m'assistait. J'étais tellement joyeuse que... En tout cas, je sautais, je dansais partout, une pinotte puis un autre. Ça allait bien. Pourtant, mes circonstances n'ont pas changé. J'aurais pu m'asseoir et dire, ben là, voyons, en revenant en arrière un peu, on va te dérouler la bobine. Ça va toujours aussi mal. J'avais toujours pas la réponse que j'attendais. J'avais toujours pas. Mais la joie de l'Éternel m'animait. Pourquoi? Parce que j'ai fait le choix de rentrer dans sa joie, de me réjouir. Et le Seigneur est fidèle. Il a remplacé la tristesse par sa joie. Et vous savez que la joie, ça l'a plus qu'un atout. Non seulement ça va nous préserver d'avoir des rides avant notre temps, mais de sourire, c'est agréable pour les aussi. C'est agréable pour notre entourage, pour nos enfants, nos... Mais ça le plus que ça. Le fait de se réjouir, ça nous rend utile. Mais là, vous allez dire, ça, c'est fort. Où est-ce qu'elle est allée me chercher ça? Mais oui! Le fait d'être joyeux va vous rendre utile. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable, lui... Comme j'ai dit au début, c'est un menteur. Puis il fait toujours la même affaire. Il a toujours la même ruse. Il essaie de faire à croire aux pécheurs, là, ceux qui sont dehors. Là. Convertissez pas, vous autres-là. Acceptez pas le Seigneur. Vous allez perdre votre joie. Ils s'amusent, eux autres-là. Péchés par-dessus la tête. Ils s'amusent pour un temps. C'est éphémère. C'est des plaisirs qui sont pour un instant. Mais ils s'amusent. Alors lui, il leur dit, ben non, va surtout pas là. Commence pas à lire la Bible. Tu vas perdre la tête. Tu vas perdre ta joie en plus. Il y a que des ordres là-dedans. Fais pas ça! Alors, voyez-vous, le fait d'être joyeux va vous rendre utile. Pourquoi? Parce que les gens vont voir la joie qu'on dégage. C'est à nous autres, le peuple de Dieu, à prouver que Satan, c'est un menteur! Faut laisser la joie du Seigneur qui est en nous, faut la laisser déborder! Faut que les gens qui nous entourent voient que cette joie qui nous anime est présente en nous. Puis qu'elle dépend pas de nos circonstances. Parce que les gens sont heureux selon leurs circonstances. s'ils ont beaucoup d'argent, s'ils ont de la popularité, s'il fait beau dehors, le soleil brille, puis là, ils ont gagné la loterie, peu importe, ou ils ont l'occasion de faire un voyage dans le sud, puis lâcher l'hiver, puis la neige, puis le froid. Ils sont contents, ils sont heureux, leur joie, eux, dépend de leurs circonstances. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, à montrer que notre joie, nous, ne dépend pas de nos circonstances. On peut être dans des circonstances peu favorables, puis démontrer, manifester la joie du Seigneur, parce que c'est ça qui est notre force. Notre raison à nous de se réjouir, peuple de Dieu, se trouve en Christ, et non dans nos circonstances. Si on pouvait s'arrêter un instant, puis méditer sur tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait pour nous. Savez-vous quoi? On trouverait à se réjouir jusque dans l'éternité. On se réjouirait jusqu'à temps qu'on entende la trompette sonner. Il n'y aurait plus un moment de tristesse. Il n'y aurait plus un moment de solitude, un moment de découragement qu'on ne peut pas vaincre. Parce que je dis que les circonstances, des fois, l'ennemi va mettre des circonstances, va vouloir brouiller les choses. Mais on pourrait se réjouir jusqu'au retour. Juste à méditer pour un instant qui il est, qui il est. On a une relation personnelle avec lui. Il est passé d'être un Dieu grand de l'univers à notre Père. On a une relation personnelle avec lui. De découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Il a donné son sang, il a donné son Fils. Puis il vient nous chercher un jour. Puis il nous garde, puis il nous protège, puis il nous garde dans sa joie. Si on peut penser un peu la grandeur de Dieu, on va se réjouir. La joie de l'Éternel va dépasser nos circonstances. Et cette joie-là va faire place à la tristesse, à l'accablement. Trop souvent, ce qu'on voit des chrétiens accablés, découragés, abattus par les circonstances. Non, on relève la tête et on va montrer au monde de dehors, on va montrer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que notre joie à nous dépend de Jésus. Alors, on continue notre lecture toujours dans 1 Thessaloniciens, on est au chapitre 5, et la fin du verset 16 qui nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. On a vu « Soyez toujours joyeux ». Priez sans cesse. Dieu veut qu'on ait une pensée de lui tout au long de notre journée. Que nos pensées soient animées des siennes. Il veut qu'on pense à lui. Il veut que les choses les plus simples qu'on fasse, comme manger et boire, on peut-tu trouver quelque chose de plus simple qu'on fait au quotidien que ça? Manger et boire. Peu importe ce qu'on fasse, on le fasse non comme envers les hommes, mais comme envers Dieu. Donc, dans notre manger, notre boire, on doit lui rendre gloire. Donc, si on agit de cette façon-là, si on est toujours joyeux, si on prie sans cesse, on va être capable de se poser la question, « Seigneur, ce que je me prépare à faire, là, est-ce que ça te plaît? » Est-ce que tu peux, Seigneur, à mes amis, peux-tu approuver mes fréquentations? Est-ce que tu approuves, Seigneur, mon travail? On va être capable de cette question-là. Est-ce que ce que je fais, là, présentement, ça t'amène-tu de la gloire? Est-ce que ça t'amène de la gloire puis de l'honneur? Est-ce que j'élève ton nom, Seigneur, dans ma vie? On va être capable de... Si on pense ainsi, on va voir l'importance de prier sans cesse. Trop souvent, on prend des décisions. On a tout orchestré, on a tout organisé l'affaire, on a toutes les solutions, puis on a toutes les réponses. Puis là, on dit, « Ah, Seigneur, bénis ça! Amen! Dans le nom de Jésus! » Puis là, on s'aperçoit, bien là, ça va pas. Tout va mal. Puis on dit, « Ben voyons, j'ai demandé de bénir, putain, mais c'est ça qui ne bénit pas, mais c'est ça que... j'ai rien qui marche. » C'est qu'on a pris les décisions avant de prier. On a géré notre vie, on l'a organisé comme bon nous semble. Après, on demande à Dieu de bénir. Il ne peut pas bénir qui n'est pas en accord avec sa parole. Il ne peut pas nous bénir quand on n'agit pas selon sa parole. Mais si on prenait le temps de prier, comme la parole de Dieu nous dit, de prier sans cesse, combien de différence serait nos vies? On serait épargné de tellement de souffrances, de tellement de malheurs, de tellement de déceptions, si on prenait le temps de prier, de regarder à Dieu, de le reconnaître dans tout ce qu'on fait. Il veut nous protéger, il veut nous garder du mal. Mais il faut qu'on lui donne quelque chose à travailler avec. Il faut qu'on collabore avec lui. Il faut qu'on coopère avec lui. Il ne peut pas nous protéger si on se met au milieu du mal. Il ne peut pas nous garder du danger si on s'en va se mettre dans des circonstances où le danger nous entoure. Mais si on prend le temps de prier, si on prend le temps de chercher sa face, si on prend le temps de le reconnaître dans nos voies, il va aplanir nos sentiers. Il va nous garder puis il va nous protéger du mal. Et finalement, on voit dans le verset 17 qui dit « Rendez grâce en toutes choses ». Comme on a dit au tout début, c'est facile de remercier Dieu dans des grands moments de bénédiction. Quand il a répondu à une prière, on cherche un emploi, le Seigneur nous rouvre une porte, on a un emploi. Il nous fait goûter à sa présence. Sa joie qui est là, sa paix, il a touché nos cœurs, il a touché nos corps aussi, il a guéri nos corps physiques, on était malades, puis on a senti la touche de Dieu nous guérir. On se promènera pas, puis elle a dit à tout le monde, « Oh, tu sais, Seigneur, c'est bon, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. » En tout cas, cette semaine, là, il a changé mes circonstances, en tout cas. Puis l'alarme à l'œil, puis on a amené une base comme si on attend notre arrêt de mort. On va dire, « Non, Seigneur, il est bon, il a répondu à ma prière, il m'a donné un emploi, j'ai eu sa présence tout au long de cette semaine, j'ai goûté à sa joie, il a guéri mon corps, on est animé par sa présence. » Alors, c'est tellement important de comprendre ça, de rendre grâce en toutes choses. Mais est-ce qu'on fait ça vraiment? Est-ce qu'on peut dire honnêtement qu'on rend grâce en toutes choses? Quand ça va bien, oui, c'est facile, c'est naturel, c'est facile de faire ça, mais dans nos déceptions. Quand on est vraiment déçu, là. Quand on est dans la souffrance. Je ne parle pas de la maladie, là. Je ne parle pas d'être accablé par la maladie puis de dire au Seigneur, mais là, j'accepte ma maladie. J'accepte ma souffrance. Là, tu m'as donné un cancer, bien là, tu m'en donnerais peut-être deux autres, là. Ça va aller mieux. Parce que je sais qu'à travers de ça, tu m'éprouves parce que tu m'aimes. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas les souffrances de lesquelles la parole de Dieu nous parle. Parce que la maladie, Jésus, il a dit avec ça. Quand sa chair, elle était meurtrie par les foies, la parole de Dieu nous dit dans Isaïe que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, on ne parle pas de souffrance physique, on ne parle pas de maladie, mais on peut avoir une souffrance de l'âme, on peut avoir le mal de vivre dans nos émotions. C'est assez souffrant quand quelqu'un nous tourne le dos, quand quelqu'un médit de nous, quand quelqu'un nous renie. Ça, c'est pas de la souffrance, je ne sais pas là. La persécution aussi, on va être persécuté pour notre foi. Pas tout le monde qui va nous aimer là, quand on partage notre foi, ils vont dire ah oui, tu veux me parler de ta foi, viens, on va s'asseoir. Non, non. Le monde va nous retourner le bord et dire hey, ils sont sautés, allez-vous-en, achalez-moi pas. C'est pas tout le monde qui sont ouverts à ça. Alors, on va goûter à la persécution, même quand nos attentes, des fois, ne sont pas réalisées. On a des attentes en tant qu'humains. En tant que parents, on a des attentes de nos enfants, des fois, qu'on est frustrés, des fois, que voir nos attentes ne sont pas tout à fait réalisées encore. Mais dans toutes ces choses-là, il faut apprendre, comme on a dit, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse. Toutes ces choses-là, ce sont des bénédictions déguisées. Si on peut le voir comme ça, puis le recevoir comme ça, que dire les épreuves que je vis, dans quoi je suis encerclée, mes circonstances présentes, mais c'est des bénédictions déguisées. Pourquoi? Parce que ce sont les instruments que Dieu va utiliser pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Ce sont des bénédictions déguisées. C'est l'instrument que Dieu utilise. Parce qu'il n'y avait pas de controverse, notre foi n'a pas, il n'y a pas eu lieu d'avoir de la foi. Il n'y a pas eu lieu de se tenir et se cramponner après Dieu puis de dire « Tu es mon refuge » dans des moments de détresse, dans des moments de tempête. Il n'y a pas eu lieu de ça. Mais si on est capable de comprendre que ces choses-là, Dieu les permet. Il les envoie, mais il les permet. Il permet nos circonstances. C'est comme un instrument entre sa main. C'est une bénédiction déguisée, puis c'est comme un test qui dit, là, on va passer le test, puis la bénédiction va venir. Parce que trop souvent, comme enfant de Dieu, même, on dit à la légère, je vais être à ton image, Seigneur Jésus, puis là, on pense que c'est bien humble de dire ça. Puis c'est surtout bien religieux, hein. On se ferme les yeux, puis on se croise les mains, puis on dit, rends-moi semblable à toi, Jésus. Mais Jésus, il a souffert. Jésus n'a pas connu que la gloire. Il a connu la gloire dans sa résurrection. Il a connu la gloire. Là, il était assis à la droite du Père. Mais il a connu la souffrance. Il a connu la déception. Il a connu la trahison. Il a connu la faim, la fatigue. Même les douze qui étaient avec lui, ils allez-vous me laisser vous aussi? Donc, il a connu la solitude. Il a connu la souffrance. Alors, si on va être rendu semblable à lui, il faut se la chanter aussi, ben, Seigneur, parmi les souffrances, à travers de la déception, tu vas me rendre semblable à toi. Tu vas me mouler conformément à ton image. Alors, on sait que si on a cette attitude-là, de recevoir les grâces de Dieu, de se réjouir toujours, de lui faire confiance, de prier sans cesse, de lui rendre grâce en toutes choses, mais Dieu ne nous laissera pas tomber parce qu'il est fidèle. Il ne nous laissera pas bredouille, il ne nous laissera pas seul. Il va nous accorder sa grâce pour surmonter puis pour vaincre. Tout ce qu'il veut de nous, c'est de la coopération. Tout ce qu'il veut de nous, c'est qu'on se mette en ligne avec sa parole. De dire, Seigneur, là, j'ai pas le goût, mais je vais le faire pareil parce que ta parole me le demande. Puis parce que je t'aime, puis je sais que tes commandements sont intentionnés pour mon bien, alors Seigneur, je me mets en accord avec toi. J'enligne mon cœur, mes pensées, mon être entier, mon esprit, mon âme et mon corps, Seigneur. Je les mets là sur l'autel devant toi. Je fais le choix aujourd'hui d'être heureux. Je fais le choix de me réjouir, de prier sans cesse, de chercher ta face, de te rendre grâce en toutes choses. Alors, le Seigneur va nous aider à surmonter. Il va nous donner sa grâce. On ne le sait pas par nous-mêmes. C'est pas dans nos mérites, c'est pas par nos forces. On a vu tout à l'heure que le Seigneur est notre force. Alors, c'est sa joie à nous qui va remplacer la tristesse. C'est sa joie à lui qui va remplacer tout ce que l'ennemi a voulu amener sur nous. Alors, comme conclusion, on va être capable de maintenant s'identifier à Jésus puis dire comme Jésus. Nous aussi, Seigneur, nous voulons, on se plaît à faire toute ta volonté, ô Dieu. Voilà notre Jésus. Voilà le Jésus qu'on aime. Voilà le Jésus qu'on professe. Il s'est humilié. Il s'est fait, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est soumis à la volonté de son Père. Quoi qu'il est égal, les dieux, il s'est soumis à la volonté de son Père. Puis il dit, je me plais à faire toute ta volonté. Dans le jardin de Gethsémani, ça ne devait pas être drôle, là. Il savait ce qu'il attendait. Pas pour rien que dit cette coupe, Seigneur, la coupe va s'éloigner de moi. J'aurais pas le goût de passer par là. Je les aime, mais j'ai pas envie de mourir pour eux autres. Ça va faire mal, là. C'est un vrai corps que j'ai de chair. Ça va faire mal, les clous, tout ça, les crachats, les injures. J'en ai pas déjà vécu assez. Mais pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Alors, on veut s'identifier avec Jésus. On veut dire, pas ma volonté, Seigneur, mais que la tienne se fasse en travers de moi. Alors, je vais manifester la joie du Seigneur. Puis ça, de dehors, comme on a dit, on va être utile. Des fois, on cherche d'être utile. On pense que c'est en arrière du lutrin qu'on va être utile. On pense que c'est de faire ci, puis c'est de faire ça, puis c'est de courir au bout du monde, puis c'est de courir dans les missions. Oui, tout ça, ça a sa place, mais on va être utile juste en affichant un sourire. Puis vraiment laisser la joie du Seigneur manifester dans notre façon d'être. Toute notre continence va démontrer la joie du Seigneur. Les gens vont nous arrêter à un moment donné, vont dire soit qu'ils sont fous, ou soit qu'ils ont trouvé quelque chose que j'ai pas. C'est quoi leur problème, eux autres? Il n'y a pas d'ouvrage, ça va pas bien. Regarde-moi ça, ils sont toujours joyeux, ils sont paisibles, ont la sérénité dans leur visage. Les gens vont poser des questions. Notre joie va nous rendre utile. Parce que les gens de l'extérieur, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin non seulement de joie, mais ils ont besoin d'un bonheur. La joie, c'est passager, ça. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui demeure. Alors, ils ont besoin de connaître ce que nous connaissons. La paix du Seigneur, la joie du Seigneur, le bonheur qui nous anime. Alors, on va sortir d'ici aujourd'hui vainqueurs, souriants, au-dessus de nos circonstances. Nos circonstances sont sous nos pieds. Quand on regarde nos circonstances, des fois, on regarde de même. Comme si on regarde une montagne, qu'on dit, oh, « Quelle haute! Comment je vais faire passer? Par où je vais passer? » Et là, est sous nos pieds. Nos circonstances sont en dessous de nous. Parce que Jésus les a mis là. Puis nous a donné l'autorité de regarder d'en haut puis en bas. Puis on dit, hein, pas si trop que ça, finalement. C'est pas si terrible que ça. Si je regarde ça de même, bon, y a moyen. Y a moyen de moyenner, comme on dit en québécois. Fait qu'on est vainqueur par celui qui nous rend vainqueur. Alors, on va sortir d'ici aujourd'hui. Puis on va partir avec la détermination qu'on n'a pas des visages attristés. Qu'on ne se laisse pas abattre par nos circonstances, mais on va manifester la joie du Seigneur. Puis c'est par cette joie-là, non seulement qu'on va être utile, mais qu'on va vaincre nos circonstances, on va marcher dans la paix, dans la bénédiction qui nous appartient, puis on va rendre gloire à celui qui nous a lavés, qui nous aime, qui nous a sauvés et qui revient nous chercher bientôt. À lui soit la gloire, alléluia, au siècle des siècles. Alors, si l'équipe de louange veut bien venir, on va prendre un moment de réfléchir sur les choses intenses qu'on a entendues ce matin. C'est l'Esprit qui nous a parlé. Il veut qu'on soit joyeux. Il veut qu'on apprenne à prier sans cesse. Il veut qu'on lui rende grâce en toutes circonstances. Peu importe ce qu'on envisage. Peut-être aujourd'hui, ça va bien. Tu sais, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Je suis déjà heureuse, ça va bien. Peut-être c'est demain que ça va avoir besoin du message. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être dans un mois à venir. Peu importe. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pour demain. La parole de Dieu est inchangeable. Si on est joyeux, le Seigneur va nous donner. Si on fait le choix d'être joyeux. Il va nous accorder sa grâce. Il va nous accorder sa puissance. Il va nous accorder son aide afin qu'on puisse grandir, qu'on puisse aller toucher un monde intouchable, il nous semblerait. Un monde accablé, un monde attristé. Parce qu'eux autres sont joyeux selon les circonstances. Puis quand ça ne va pas bien, bien, il n'y a rien qui va bien dans leur monde à eux. Mais nous, on va faire la différence. On va laisser la joie du Seigneur qui est en nous. On va la laisser déborder. Les gens vont voir que notre joie vient du Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta joie qui est notre force. On élève nos cœurs devant toi, Seigneur Dieu. Et Seigneur, on te dit, prends-nous, esprit en mes corps, Seigneur Dieu. On veut, Seigneur, pas regarder à nos circonstances. On regarde à toi qui es l'auteur de notre joie, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous avoir rachetés. Tu nous gardes, tu nous protèges. Tu nous donnes des bénédictions, Seigneur, qu'on ne pourrait même pas commencer à énumérer aujourd'hui. Tellement tes promesses sont grandes. Alors on regarde à toi. Tu es l'auteur de notre joie. On va partir d'ici, Seigneur, ce matin, rayonnant. Merci, Seigneur Dieu, que c'est quelqu'un qui est accablé ce matin, quelqu'un qui est attristé ce matin, en faisant le choix de se réjouir en toi. Ça va partir. Le nuage va passer, ça va faire place à ta paix, à ta joie. Merci, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ta joie. Alléluia. Gloire à toi. Béni soit ton saint nom à tout jamais. Alléluia. Et on a l'habitude de faire un appel les dimanches matins aussi. S'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur qui est ici, je vous demanderai de lever votre main. On va prier pour vous, on va prier avec vous. Mais je pense que je connais tout le monde ici ce matin. Je crois qu'on est tous des enfants de Dieu. On va laisser le Seigneur sonder nos cœurs ce matin. Même si on est des enfants de Dieu, des fois on peut avoir été un enfant de Dieu qui était triste trop longtemps. On peut avoir été un enfant de Dieu qui a manifesté de la tristesse. On n'a pas su démontrer la joie du Seigneur. Mais c'est fini ces jours-là. À partir de ce matin, à partir de maintenant, ça change. On va sortir d'ici rayonnant. Rayonnant dans la joie du Seigneur. Parce que c'est sa joie qui est en nous. Notre joie ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos circonstances, mais dépend de lui. Alors on va partir cette semaine, puis on va aller partager la joie du Seigneur. Ça fait partie du bon message. Oui, on va partager l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est de dire au monde que Jésus est mort pour eux. Il a versé son sang pour eux. Mais une partie de la bonne Évangile aussi, de la bonne nouvelle, c'est de manifester la joie du Seigneur. Alors on va manifester la joie du Seigneur ce matin. Qu'on se lève ce matin dans sa présence, qu'on puisse le louer, l'adorer pour qui il est. On va quitter ce lieu ce matin avec sa paix, avec sa joie, puis on va le faire connaître, les gens qui nous entourent. On va arriver à la maison, puis si vous avez des enfants, ils vont dire, « Voyons, veux-tu bien me dire ce que tu as passé l'avant-midi, toi? » Donc, bien souriante, donc bien les yeux pétillants, parce que c'est le Seigneur qui nous a délivrés. Alors, c'est quelqu'un ce matin ici qui est accablé, qui a besoin de prière. Des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin de prière. On a besoin de mettre notre foi, accrocher notre foi avec quelqu'un. On va se mettre en accord avec vous, que vos circonstances vont cesser maintenant. Ce que l'ennemi veut mettre sur vous, le découragement. Peut-être vous dites, oui, mais moi, j'en arrête la joie peut-être, là, mais je vois pas une solution. Jésus est la solution. Alors, je vous inviterai pour la prière. S'il y a des gens qui sentent qu'ils ont besoin de prière ce matin, soit pour le baptême du Saint-Esprit, parce que ça, c'est une puissance.